Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, cousu main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, Nationalisme et populisme, l'autre visage de l'Europe. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a l'échéance des prochaines élections, les 1000 questions qui nous traversent et les peurs qui nous habitent. Il y a cette enveloppe qu'il faudra glisser dimanche dans l'urne et surtout, il y a ce chiffre que l'on ne veut pas entendre, que l'on préférerait ne pas lire, ces 25% de voix qui en France iraient à l'extrême droite. Alors il y a aussi une envie de comprendre, d'explorer, de s'obliger à entendre ou au moins à écouter ce qui émerge autour de nous. Et surtout, au-delà du constat de ce virage nationaliste européen, rappeler d'où vient l'extrême droite et ce que demeure son discours, quels que soient ses habits neufs, à travers l'Europe. Alors pour commencer, les personnages. Un leader d'un parti flamand qui met la poussière sous le tapis, un militant italien à l'accent chantant qui aime l'ordre et l'escalade, un chef de parti polonais pétiniste et tachérien, un militant autrichien légèrement amnésique et deux analystes politiques. Ensuite le décor, des mots qu'on n'arrive pas à prononcer, de très mauvais souvenirs, un humour douteux des arrières-salles de restaurants, des quintaux de nationalisme, les couloirs du Parlement européen et des voitures confortables. Aujourd'hui, premier épisode, Jean-Yves Camus est un chercheur qui analyse les dérives politiques.
Quand on essaye d'avoir un peu de mémoire historique, pour ne prendre que le cas français, le Front National a envoyé pour la première fois des députés au Parlement européen en 1984. Donc, ça fait maintenant 30 et quelques années que le phénomène perdure. Il est temps de s'en apercevoir. La situation est à peu près la même en Autriche. Elle a évolué à la baisse dans la partie néerlandophone de la Belgique où le Vlaams Belang est finalement aujourd'hui un peu dépassé par ce parti à la fois nationaliste, républicain, indépendantiste, mais de gouvernement, qui n'est pas un parti d'extrême droite, la NVA. En Autriche, le succès du FPE date quand même maintenant, non pas des années 90, avec Haider, mais d'avant. Donc on a quand même derrière nous 30 ou 40 ans, parce que j'oublie dans tout cela l'endroit d'où est parti le phénomène du populisme xénophobe, la Scandinavie, où le phénomène a émergé au milieu des années 70. On a tout de même plus de 40 ans maintenant de cette profondeur historique qui voit deux familles se disputer le leadership des droites. Une qui est classiquement libérale ou classiquement conservatrice, et puis une droite plus récente qui effectivement valorise la dimension populiste du rapport direct entre un chef charismatique et le peuple, qui aussi s'exprime très fortement contre la globalisation, à la fois dans son versant économique et dans la partie identitaire qu'elle induit. C'est-à-dire que ces partis cherchent à tirer profit du sentiment qui s'empare de beaucoup de citoyens européens pour qui l'Europe, ça reste très loin et très vague, et qui en même temps constatent dans leur vie quotidienne que leur environnement a changé. Il a non seulement changé en termes de stabilité économique, mais il a changé parce que nous sommes devenus des sociétés multiraciales et multiethniques. Et naturellement, ça produit, comme dans toutes les grandes mutations, à la fois de l'angoisse et du trouble.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en overdijken duin de grijze.
Les figures providentielles des extrêmes droites européennes.
Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land.
Un trouble, comme le dit Jean-Yves Camus, spécialiste des extrêmes droites. Un bien vieux trouble d'ailleurs. Si l'on intègre machinalement et administrativement une forte dose de substance étrangère à la substance foncièrement, naturellement et historiquement française, on va dénaturer cette substance. C'est ainsi que le sulfureux André Figuera, écrivain, résistant et anti-Dreyfusard, mort en 2002, aurait sans doute résumé le sentiment que partagent tous ceux qui aujourd'hui adhèrent aux idées des principales formations d'extrême droite européenne. 25 mai 2014. Près de 20 ans après le traité de Maastricht et 8 ans après celui de Lisbonne, une vague brune déferle sur l'Europe au soir des élections, hypothéquant l'avenir même de la construction européenne et de ses institutions. C'est la stupeur. Personne n'avait-il vraiment rien vu venir ? Exit les partis traditionnels, place désormais au populisme, au nationalisme et à l'euroscepticisme. L'élection de Donald Trump aux États-Unis et le Brexit ont bombé les torses de ces localistes du Parlement européen face aux globalistes, incapables, eux, de proposer un avenir radieux. Le paysage politique se transformait au Parlement européen, tandis que dans les parlements nationaux, il faisait des entrées fracassantes. De nouveaux visages apparaissaient dans les couloirs de ces parlements, à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, à Anvers, Vienne, Gênes, Varsovie et un peu partout en Europe. Ils devenaient fréquentables, ces nouveaux députés, qui, vêtus d'habits neufs, refusaient d'être estampillés extrême droite. Ils sont aujourd'hui aux portes des démocraties européennes. Nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux leaders aux agendas serrés. Ce sont des héritiers que nous avons rencontrés, chacun de son histoire nationale, de ses pères et d'une époque qu'on croyait révolue.
Alors Gerold Fanmans, on se retrouve ici à Anvers, dans votre fief.
Oui, ma ville de naissance, oui.
Alors on est face à la mairie de Anvers, en face de nous il y a le marché de Noël.
Et n'oubliez pas la cathédrale. La statue que vous voyez là, c'est Brabo, petit Brabo, qui a battu le géant.
Donc c'est David contre Goliath.
Oui, qui a coupé la main, c'est jeter la main. D'après la légende, il a libéré l'Escaut, la rivière. En libérant la ville de Goliath, il a libéré la ville.
Justement, 30 ans de carrière, comment tout ça, ça a commencé pour vous ?
Je suis né dans une famille de nationalistes flamands. Et le nationalisme flamand, après la bêtise ou l'erreur de la collaboration avec les Allemands, le nationalisme flamand a espéré que les Allemands allaient nous libérer de cette Belgique, mais c'était bien sûr une erreur. Après cette erreur, ils ont dû rebâtir ce nationalisme. Et quand moi je suis né en 58, c'était à nouveau sur la table, comme un mouvement convenable. Hein. Même quand moi j'avais 20 ans, étudier le droit, devenir journaliste, avocat par après, j'ai vécu qu'on me traitait comme un collaborateur des nazis, tandis que j'étais né l'année 60. Et donc c'était à partir de là que l'identité nationale, qui est un problème essentiel pour les Flamands, ils vivent dans un état artificiel, dans un concept multiculturel, dans le rêve de ceux qui ont bâti l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien que j'ai maintes fois comparé l'Union européenne à la Belgique, hein, et la Belgique à l'Union européenne. Le concept vient de chez nous, en fait. Et donc le nationaliste flamand que je suis était, dès le début, avec sa bataille contre cet État belge qui ne nous permet pas d'être flamands, qui ne nous permet pas d'être de développer notre économie comme il faut, notre sécurité sociale, notre système judiciaire, etc., comme nous le voulons, qui doivent toujours se trouver dans un compromis avec les Wallons, qui pensent entièrement différentes sur presque tous les terrains. Voilà, c'était ça le nœud de ce que je fais maintenant.
Vous dites être né dans une famille de nationalistes flamands. Ils faisaient quoi, vos parents ?
Ils avaient un petit PME, des gens très modestes, rien de... Ils n'étaient même pas membres du parti qui précédait le Vlaamsblok. Mais ils votaient, on parlait de la politique chez nous, à la table. Ils étaient très en faveur du fait que leur fils aîné, étudiant en droit, actif dans les mouvements des étudiants à Anvers, à l'université de Louvain, etc., qu'ils se mettaient dans l'engagement, puisque c'était un peu le rêve qu'eux, ils avaient de ce qu'ils voulaient faire, eux.
Alors justement, est-ce qu'il y a un événement qui dit « Oh là, moi, à partir de là, il faut que je m'engage en politique ?»
Un certain jour, je rentrais chez moi, chez mon père et chez ma mère. Je disais, le Paliturke, c'était un hebdomadaire radical nationaliste que eux ils lisaient de manière très enthousiaste toute leur vie, m'a engagé comme journaliste. Et ça, c'était l'événement, en fait, de partir étudiant et d'arriver comme personnalité publique, journaliste. Et donc, le petit avocat était tout à coup journaliste. Il interviewait les ministres, les grandes personnalités rue de la Loi à Bruxelles. Et ça, c'était un peu ça, l'événement. Épater mes parents. Et le deuxième événement, c'était que pendant toutes ces interviews, il y avait le fondateur de mon parti, Vlaams Blok, qui, deux jours après, m'appelait et disait « Je t'ai entendu, questions-réponses, etc. Tu ne voulais pas devenir parlementaire chez moi, me remplacer moi, puisqu'il siégeait seul, juste pour illustrer que c'était un petit parti. Hein. » Après deux semaines, j'ai dit « Oui, je vais faire ça. » J'ai suivi mon cœur et j'étais le suppléant du fondateur du parti et j'étais le premier élu, après lui, le premier élu du parti. Là, en 77, on a fondé le parti. Et le thème, c'était « On n'accepte pas cette réforme de la Belgique qui nuit aux intérêts des Flamands. » Chaque réforme d'État donnée de l'autonomie aux Flamands et aux Wallons devrait être payée par des compensations envers les francophones. Et les Flamands, jusque-là, avalaient tout ça, cette méthode. Et nous, la nouvelle génération, à partir de ce moment-là, on disait non, arrête, si on va réformer l'État, il faudra le faire de manière balancée et sans que ça soit payé par les Flamands, par de l'argent surtout, les transferts du nord au sud. Donc à certains moments, aux années 60, on a mis la frontière linguistique qui a divisé un peu le pays. Les vrais grands thèmes, on les a repris, on les a mis sur la table en Flandre et on en a fait un grand thème, l'identité nationale. Maintenant, par après, on peut dire, bon voilà, on est devenu le parti de l'identité nationale vis-à-vis le supranationalisme, le multiculturalisme, le globalisme même. Donc, si vous voulez, comprenez le Vlaams Blok et sa spécificité, on ne peut pas le faire sans l'identité nationale dans le sens l'identité flamande, que je désigne comme une identité culturelle. Mais avec cette sensibilité, qu'une identité culturelle nous emmène aussi le débat de l'immigration, bien sûr. Donc quand le flamand, quand l'anversois rencontre dans sa ville, dans certains quartiers, une surpopulation d'immigrés, d'abord surtout musulmanes, mais par après une immigration de partout, en fait. Ça aussi, c'est une confrontation sur le plan identité culturelle. Donc cette identité culturelle qui nous inspirait d'être nationaliste flamand au sein de la Belgique, nous a inspiré par après d'être nationaliste sur le territoire de la Flandre. Donc il faut comprendre les deux et c'est intégré dans une vision sur l'identité culturelle d'un Européen fin de la 20e siècle. Maintenant, on a débuté le 21e siècle qui donne des défis beaucoup plus grands, mêlés entre-temps avec le débat sur l'Union Européenne et que les Flamands ils s'en rendent compte maintenant que c'est pour une grande partie la vraie source du multiculturel, du multiculturel. C'est drôle ça. Donc on s'en rend compte que c'est là la vraie source très chaude, le poil à bois du multiculturalisme. Lea partiu ma senza na palanca, lea za 30 anni e forse anche ciù. Ulla ia lo tope mette di ne a banca,
e poi se ne in giorno torna in giù e passa palazzino.
On pourrait s'y laisser prendre, se laisser aller à l'empathie, et crier au scandale quand on pense aux raisons de la colère. Des Flamands toujours obligés de courber les chines et de servir les riches Wallons, jusqu'à ce que la Wallonie se désindustrialise au cours des années 90. La Flandre peut prendre sa revanche, mais désormais, on la saigne pour financer les francophones aux abois. 12 milliards d'euros sont ainsi transformés chaque année de Flandre à la Wallonie. Une infamie. Pourtant, les calculs effectués par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, sont sans équivoque. Bruxelles offre chaque année, chaque même année, 16 milliards d'euros à la Flandre. Le refinancement de la région Bruxelles-Capitale ne saurait être une aumône, mais un juste retour des choses. Mais en Flandre, on a du mal à l'admettre. Nous quittons la froideur d'Anvers pour les côtes ensoleillées de Gênes, la capitale de la Ligurie, dans le nord de l'Italie. Une ville de 600 000 habitants, premier port italien et second de la Méditerranée, où la Ligue du Nord, partie identitaire de Matteo Salvini, a remporté des scores inédits.
Edoardo Rixi.
Je suis le secrétaire général de la Ligue du Nord et je suis également l'assesseur régional pour le développement économique.
Alors comment vous avez rejoint la Ligue du Nord? C'est quoi votre parcours politique et idéologique?
Io sono entrato in Lega a 16 anni, al liceo.
J'ai commencé à militer à 16 ans, donc très jeune, au lycée. Et puis j'ai toujours voté, évidemment, pour la Ligue du Nord. Et après, je l'ai rejoint. J'ai décidé de m'attacher à ces idées parce que la globalisation a imposé des mécanismes qui vont contre l'intérêt des peuples, et notamment contre des peuples qui sont attachés à leur propre territoire. Donc ça, ça a été véritablement la chose qui m'a poussé à adhérer très tôt à la Ligue du Nord.
Mais c'est un parcours familial aussi.
È stato un percorso familiale o addirittura è stato un contrasto con la sua famiglia?
Non familiare, in un certo periodo anche un contrasto con la mia famiglia, anche devo dire con alcuni percorsi che aveva intrapreso, perché ho per un periodo di tempo anche frequentato l'Accademia Militare a Modena dell'Esercito Italiano. E poi a seguito di discussioni anche di non condividere alcune posizioni che venivano allora espresse anche dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
No, c'est un parcours personnel a tel point que ça m'a posé y compris des problèmes dans ma vie professionnelle. J'ai d'ailleurs été militaire, donc très lié à l'État. Et puis finalement, j'ai décidé de quitter l'armée parce que je considérais que l'État italien n'avait pas la vision que j'avais de mon pays. Parce que mon pays, je considère que c'est avant tout des réalités locales. Et donc, il faut les respecter. Et donc, ça n'a pas été pour moi un parcours facile.
Mais comment à 16 ans? Parce que quand on a 16 ans, on a envie de s'amuser avec ses amis, de sortir. Comment est-ce qu'à 16 ans, vous prenez conscience de tout ça? C'est jeune, 16 ans.
Non ho idea, sicuramente. Io sono nato in un quartiere tendenzialmente di sinistra.
J'habitais dans un quartier de gauche, donc ça ne m'a pas posé problème de devoir batailler assez tôt.
Devo dire che io ho due amori, uno è la politica e quindi.
Mais j'avais deux amours qui étaient évidemment la politique et la montagne. J'étais habitué à l'effort et je suis également un instructeur d'escalade. Donc je m'amuse quand même un peu.
La mia famiglia in realtà ha origini da una parte partigiane e dall'altra invece vicine, era spaccata praticamente à metà, et une autre partie, invece.
C'est vrai que moi je viens d'une famille où il y a à la fois des résistants, donc des gens qui ont été contre le fascisme, et des gens qui étaient plus, on va dire, en faveur de ce genre d'idées. Donc moi je suis une synthèse en fait. Je considère qu'il faut dépasser ce clivage gauche-droite, et que la vraie réalité, c'est la réalité du territoire. Et donc il faut avant tout protéger l'Italie. En tant qu'ensemble cohérent de groupes locaux face aux agressions extérieures de la globalisation.
Je crois que le problème est que la sinistra, con la caduta del muro di Berlino, non si è rinnovata in realtà.
La gauche, en réalité, a soutenu la globalisation depuis la chute du mur de Berlin. En réalité, les choses n'ont pas vraiment changé, sauf qu'on est face maintenant à un gros problème, c'est qu'il y a un chômage à l'intérieur de tous nos pays, et qui est un chômage qui est injuste, puisque nos enfants n'ont pas accès à certains emplois, parce qu'il y a une main-d'œuvre moins chère qui est constituée par l'immigration. Et ça, je pense que c'est une problématique qui touche l'Italie, mais qui touche également les autres pays, et qui est liée, évidemment, à un problème très large qui touche également le monde entier, qui est la globalisation, et nous sommes une réponse.
Alors, Eduardo Rixi, vous pouvez me dire où se situe la Ligue du Nord dans le paysage politique italien ?
Sicuramente un momento di cambiamento, e come tutti i momenti di cambiamento, anche un momento di confusione. Lo scenario su cui si colloca il nostro movimento politico è uno scenario in rapida evoluzione, soprattutto negli ultimi anni. Basti pensare che la Lega, alle ultime politiche, ha preso il suo minimo storico, che è stato in questa regione il 2,6.
En réalité, on est un mouvement et un parti politique qui a connu des hauts et des bas. De manière très rapprochée, puisque aux dernières élections dans cette région, aux avant-dernières plus exactement, on prenait 2,5%, ce qui a été le record le plus bas. Et les élections successives, on a eu 23%, ce qui a été le record le plus haut, en l'espace d'un an. Donc il y a eu une évolution qui fait qu'en fait, finalement, on est dans une confusion totale au niveau du paysage politique, à la fois national et régional, mais il y a aussi le fait qu'on a vraiment choisi de pas se positionner par rapport au clivage. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre des idées, y compris à la gauche, puisque on considère que la protection des travailleurs est une priorité. Et puis il y a des thèmes qui nous intéressent, qui sont défendus par le mouvement 5 étoiles. Et puis il y a également des thèmes de Forza Italia qui nous intéressent. Donc en fait, on veut créer une troisième voie, quelque part une nouvelle voie, avec certaines idées qui sont en corrélation avec des partis politiques qui sont nos adversaires, mais choisir notre route qui serait quelque chose de nouveau.
Alors, vous passez d'un peu plus de 2% à 23% en un an, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les électeurs sont perdus ? Ça veut dire que les partis traditionnels ont perdu ?
Oui, ça veut dire entrambe le cose. Noi siamo passati in un momento molto difficile come Lega. E poi Matteo Salvini, prima con le europee e poi con le elezioni regionali, ha tracciato una via completamente nuova. Siamo partito che era regionalista ma posizionato solo in alcune regioni del nord Italia, che addirittura in alcuni momenti è stato fortemente critico nei confronti dello Stato fino a diventare secessionista, a un partito che sta cercando di trovare un'idea su cui risollevare l'intera.
Sur certains points, on est très rigide et du coup, ça fait notre force parce que comme il y a un mouvement de confusion, nous, on se focalise sur certains points et même si on est capable de pouvoir dialoguer sur certains autres points, sur certains points, on sera intransigeant. Par exemple, l'euro, par exemple, la politique européenne, également l'immigration. On voit que parfois, ça ressemble un peu à ce qu'avaient promis certains partis, comme par exemple le mouvement 5 étoiles, mais on voit que finalement ils sont beaucoup moins critiques de l'immigration qu'on l'est nous, ou par rapport à l'Europe où ils avaient par exemple un groupe au départ qui était un groupe de souverainistes et puis finalement ils ont essayé de s'acoquiner avec les libéraux, mais ils ont d'ailleurs échoué, mais ils ont essayé, donc ça veut dire que quelque part ils n'ont pas une cohérence. Nous on a cette cohérence d'un côté, et puis il faut savoir que l'histoire de notre parti est quand même liée au parcours actuel de Matteo Salvini. Avant c'était un parti régionaliste, donc séparatiste, et qui était présent que dans certaines régions, donc forcément de l'Italie. Et puis, après, avec l'apparition de la nouvelle ligne politique de Matteo Salvini, on s'est ouvert au territoire national, donc avec des idées qu'on a décidé de partager avec l'ensemble de la population italienne. Simplement, effectivement, notre cœur de bataille, à l'heure actuelle, c'est quand même une opposition frontale à l'Europe, qui est monolithique, c'est-à-dire on ne s'accommode pas de certains mécanismes que finalement les autres ont acceptés.
Le thermomètre frôle avec les moins 10 degrés lorsque nous nous posons à l'aéroport Chopin de Varsovie. Dans cette ville chargée d'histoire, celle des soubresauts du XXe siècle, la modernité côtoie les reliques du socialisme triomphant. L'ambiance, elle, est au mélodrame, comme le raconte la musique klezmer quand elle pleure ou quand elle rit. Nous, c'est avec un bien triste sire que nous avons rendez-vous dans le centre chic de Varsovie. Le très sulfureux Janusz Korwin-Mikke, personnage controversé que nous rangeons assez vite à l'extrême droite de l'extrême droite. Le 27 janvier 2017, le rendez-vous est matinal, mais à l'occasion de la journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, Janusz Korwin-Mikke doit se rendre à Lodz pour honorer une invitation bien étrange, celle de la communauté juive qui inaugure ce jour-là une exposition qui rend hommage aux juifs qui ont combattu dans l'armée polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Une blague ?
Bonjour. Faites comme chez vous. C'est un jour exceptionnel aujourd'hui. Parce que je vais à Lodz. Vous venez avec moi ? Ok, on part bientôt. J'ai été invité par la communauté juive qui inaugure une exposition sur les juifs qui se sont battus pour la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ok, that's Andrés.
On est dans mon bureau à Varsovie, juste en face de l'ambassade des États-Unis. On peut les écouter, ils peuvent nous écouter.
Vous pouvez me dire qui sont tous ces gens-là sur ces photos ?
Ce sont les grands théoriciens du libre-échange et ceux qui l'ont mis en application. De gauche à droite, il y a M. Chilewski, le fondateur de notre parti, Leopold Thiermann, un écrivain célèbre polonais, Frédéric von Hayek, Milton Friedman, Claude-Philippe Bastiat, Ludwig von Mises,
Francesco
Franco, Pinochet, Reagan, Thatcher, Deng Xiaoping,
Philippe Pétain.
Philippe Pétain, le maréchal de France.
I am Pétainis, not de Gaullis.
Pour vous, toutes ces personnes, comme Pinochet, Philippe Pétain, Franco, ce sont des gens fréquentables, des gens bien ?
Des gens bien, pas bien. En tout cas, ils ne sont pas à gauche. Le 20e siècle, c'est le siècle d'Auschwitz, du goulag et de la privation de liberté. Très mauvais siècle. Mais celui-là semble très bien.
Comment est-ce que vous avez grandi dans cette société ? Vous êtes né sous le communisme ?
Je suis né dans un pays sous occupation socialiste. Je veux parler de l'occupation de Hitler. J'ai survécu au soulèvement de Varsovie. Ma mère, non. Et puis après, il y a eu le communisme. Au début, c'était terrible parce qu'ils étaient vraiment communistes. Ils tuaient les gens et essayaient vraiment de construire le communisme jusqu'en 1956. Ils se disaient socialistes, mais ils étaient communistes, stalinistes. Moi, je croyais au socialisme. Je l'avais appris à l'école et mes parents avaient peur de me dire quoi que ce soit. Je me souviens un jour, j'étais dans ma chambre. J'avais 9 ans, l'époque de Mao et de Staline, et j'ai lu dans le journal, un journal communiste, que le maréchal Tito de Yougoslavie avait fait des choses terribles. Il avait rendu convertible le dinar et les impérialistes occidentaux allaient payer 10 fois moins cher pour tous les produits en provenance de Yougoslavie. Les Yougoslaves, quant à eux, allaient devoir payer 10 fois plus. Moi, j'étais jeune et je me suis dit que ce n'était pas possible. Je suis allé voir ma grand-mère et je lui ai demandé s'il avait vraiment fait ça. C'est une communiste, une stalinienne, et elle a confirmé. Mais moi, j'ai douté de sa réponse. On vivait à Janówek, en dehors de Varsovie, chez des amis de ma grand-mère. Et dans le grenier vivait un couple d'ouvriers qui travaillaient dans une usine à côté. Personne ne parlait avec eux et on pensait tous qu'ils étaient des communistes convaincus. Alors je suis allé les voir. Je suis monté tout doucement. Et au moment où j'allais toquer à la porte, j'ai entendu qu'ils écoutaient Radio Free Europe. J'ai cessé d'être communiste à cet instant et depuis je suis réactionnaire.
In a moment. And from that on I am a reactionist too. Well, I was socialist when I was young.
Bien, j'étais socialiste quand j'étais jeune. Vous pouvez être socialiste à 9 ans, 10 ans, 16 ans. Mais si vous l'êtes à 21 ans, vous êtes un idiot. Je ne peux pas croire qu'en grandissant, les gens puissent être socialistes, honnêtement. Mon père était ingénieur aéronautique. Il pensait que le socialisme occidental pouvait être bien. Malheureusement, il est mort quand j'étais jeune. Bien, je me suis impliqué en politique parce que je ne voulais pas être membre du Parti communiste. Je me suis engagé dans un parti populaire, un parti démocrate, qui était un peu étrange parce qu'il réunissait tous ceux qui ne voulaient pas appartenir au PC. En 1982, au moment des grèves et au moment où Jaruzelski a proclamé la loi martiale, il fallait s'y opposer. Et le Parti démocrate pouvait le faire. Mais les gens étaient trop faibles. Ils étaient comme paralysés. Ils ne faisaient que critiquer sans proposer grand-chose d'autre.
In English, yes, wetbacks, so you couldn't move them. In 1983, when the party
En 1983, on a voté au Parlement une proposition de loi qui s'appelait la loi contre les parasites, qui prévoyait d'envoyer dans un camp de travail tous ceux qui ne travaillaient pas. Alors j'ai quitté ce parti et j'ai construit le mien.
Vous dites que vous détestez l'État policier. C'est quoi cet État policier ?
L'État polonais est une organisation parasite qui me considère comme un ennemi extérieur et intérieur avec son armée et sa police qui protège ces idiots de juges.
And trying to protect the judges to fulfill the duty. That's all. Now the state is a parasite.
Maintenant, en matière économique aussi, l'État est un parasite. Ils volent l'argent du peuple. Mais ils ne volent pas l'argent des riches comme le faisait Robin des Bois pour le donner aux pauvres. Ils volent les classes moyennes et utilisent l'argent pour se payer des belles filles qui viennent des classes populaires, c'est tout. Ce qui paye le plus d'impôts, ce ne sont pas les riches. Les riches, ils ne payent pas d'impôts, ils le placent aux Bahamas. Ceux qui payent, ce sont les jeunes qui veulent devenir riches. Et les riches comme Buffett ou Gates, ils ne veulent pas que ces jeunes deviennent riches parce qu'ils deviendraient alors leurs égaux. Et ça, ils ne veulent pas. Les riches imposent donc des taxes aux jeunes qui ont faim pour se protéger du risque qu'ils puissent un jour devenir riches. Nous, on ne représente pas les riches hommes d'affaires. Nous représentons ces jeunes qui veulent faire de l'argent. Ce n'est pas la même catégorie. Parce que si quelqu'un s'enrichit dans le système actuel, alors il ne voudra pas que le système change. Nous voulons détruire ce système. On pourrait avoir maintenant 15 ou 17% de croissance, mais on est aujourd'hui à 1%. Tout ça parce que nous sommes sous occupation de l'Union européenne, des parasites.
C'est Marek qui conduit la Mercedes noire de Corvin Mikke, son homme à tout faire, son jeune homme à tout faire. Il n'a que 19 ans, près de 2 mètres de haut et habillé de pied en cap, à l'image de son maître avec le même nœud papillon. Un peu plus d'une heure de route au milieu d'un paysage plat et désolé, engourdi par la neige, jalonné de vieilles maisons de bois aux toitures goudronnées.
Rien ne semble avoir changé depuis la fin du communisme. Corvin Mikke, lui, ponctue le voyage de pointe d'humour et tente de nous arracher un sourire en nous donnant sa vision des femmes.
Quand je parle avec des féministes qui me disent que les femmes doivent travailler, je leur dis qu'elles ont raison. Arbeit macht frei. Elles sont choquées.
Savez-vous combien on compte de femmes dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde ? Je vais vous le dire, aucune. Bien sûr qu'elles doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout.
Où est-ce qu'on va là ?
On va à Lodz, pas très loin de Varsovie, à une centaine de kilomètres, avec une très bonne autoroute.
Vous parlez français ?
Un peu. Je ne sais pas. Parce que. Il avait invité moi, je ne sais pas pourquoi.
Mais vous y allez ?
J'y allais. C'est une très bonne idée.
Pourquoi ?
Non, les juifs, incombattants de l'armée polonaise durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une très bonne idée.
Alors vous dites que certains sont nationalistes, vous n'êtes pas nationaliste ?
Tout le monde est plus ou moins nationaliste. Mon nationalisme à moi, il veut dire deux choses. La première, c'est que tout le monde devrait avoir le droit d'éduquer ses enfants dans la culture qu'il souhaite et non la culture nationale. Mais en Europe, on n'a pas le droit. En Europe, les enfants appartiennent à l'État et plus à leurs parents. Et c'est l'État qui décide ce qu'ils doivent apprendre à l'école. Je suis nationaliste et pas étatiste. Et puis, quelque chose de très important, je crois en la nation et pas en la société. La société actuelle laissera la place à une autre société demain. Et puis la société, elle peut changer très vite d'avis à cause de la télé. Une nation, c'est plus qu'une société. C'est nous, nos enfants, nos petits-enfants. Si notre société veut emprunter de l'argent et boire, s'amuser, manger sur le dos des générations futures, je ne suis pas d'accord. Parce que je parle au nom de la nation et pas de la société. Parce que je dois défendre le droit de ces jeunes au Parlement. Ils n'ont pas encore le droit de vote, ils sont trop jeunes, ils n'existent pas. On ne peut pas vivre à leurs dépens. C'est dans ce sens que je suis nationaliste, parce que je ne crois pas dans la société, je ne crois pas en la démocratie, je ne crois pas que la majorité peut faire ce qu'elle veut.
Et pourquoi pensez-vous que la démocratie est un danger ?
En démocratie, c'est la majorité qui gouverne, ce sont les plus stupides qui ont raison. Karl Marx a dit que si vous voulez construire le socialisme, construisez d'abord la démocratie. Et la majorité stupide construira le socialisme parce que c'est une bonne idée pour les idiots. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les lois doivent être créées par les élites et non par la majorité.
près de 700 km au sud-ouest, l'immense parlement autrichien de style Greek Revival se dresse devant nous. Après des semaines d'attente et des dizaines de messages laissés sans réponse, les éminences du FPO, le Freiheitliche Partei Österreich, littéralement le Parti de la Liberté d'Autriche, nous accordent audience. Isold Seidel, l'attaché de presse qui n'a jamais daigné répondre à nos sollicitations, affiche un sourire convenu.
Je me présente en allemand, si vous consentiez.
Je m'appelle Johannes Hübner, je suis né en 56, je suis avocat de métier et depuis 2008, je suis député pour le FPÖ au Parlement national et mes domaines d'action sont la politique étrangère, la politique européenne et aussi le développement.
Also war kein Bruch mit einer familiären Tradition. Also ich komme aus einer, zwar aus keiner klassischen FPÖ-Familie, aber aus einer konservativen Familie, die also zwischen ÖVP und FPÖ geschah.
Alors, il n'y a pas eu tellement de rupture en ce qui me concerne par rapport à mon histoire familiale.
Als ich nicht in einer Studentenfamilie
war. Mes parents étaient de milieu conservateur, entre le FAOP et le FPÖ, donc les chrétiens conservateurs et le FPÖ. Par ailleurs, dans ma jeunesse, la période de mes études, j'étais pas dans une corporation étudiante. Beaucoup des députés du FPÖ viennent de ces corporations qui sont très lié à l'histoire du FPÖ. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis entré au FPÖ en 1985, donc c'était juste avant Jörg Haider, un an avant, à l'époque où le FPÖ était encore dirigé par Norbert Steger. Et c'est donc cette période de la fin de la coalition entre le FPÖ et le SPÖ, donc les sociaux-démocrates.
Mais alors, pourquoi s'inscrire dans ce parti à l'époque?
Ah, pourquoi? Das ist gewesen, weil ich mit der Politik einverstanden war, in groben Zügen, aber der Meinung war, dass die Partei einer Reform bedarf. Die ist in der Zeit von Norbert Steger im freien Fall gewesen, wie wir sagen. Das heißt, sowohl die Zustimmung in der Bevölkerung als auch der Zusammenhalt der Mitglieder war nachhaltig gestört, da die Partei eine weitgehend beliebige Politik gemacht hat.
Alors, j'ai rejoint le FPÖ parce que des réformes étaient vraiment nécessaires dans ce pays.
Ich habe gesagt, die Partei braucht Unterstützung, es braucht.
Il y avait en fait toujours un bipartisme en Autriche. Il faut savoir qu'en 45, en fait, au départ, il y avait trois partis qui ont été autorisés en Autriche. Le FAOP pour les chrétiens démocrates, les sociaux-démocrates du SPÖ et le KPÖ avec les communistes. Ensuite, il y a un quatrième parti en 49 qui a été autorisé, c'est l'Union des indépendants. C'est ce parti qui deviendra ensuite en 1955-56 le FPÖ. Et en fait, bon, même si on avait quatre partis, en réalité, jusqu'aux années 80, le paysage politique était vraiment fortement cimenté, on pourrait dire, un partage très clair entre deux partis, donc les sociaux-démocrates et les chrétiens conservateurs. Et ils se partageaient absolument tout le pays. À la fois au niveau national, mais aussi au niveau économique. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'entreprises nationalisées, encore plus que sous les années Mitterrand en France. Tout ce qui était l'industrie lourde était nationalisé, les assurances, la santé, même les caisses de sécurité sociale. Tout était vraiment partagé entre les deux grands partis.
Ganz zu schweigen. Also das war ein sehr verkrustetes System.
Et c'est une période aussi où l'Autriche est allée un peu moins bien d'un point de vue économique. Et la véritable révolution, la véritable évolution, on l'a connue avec Jörg Haider, donc à partir de 86.
Also Jörg Haider selbst hat die Revolution nicht gemacht, weil er ja nie in der Regierung beteiligt war. Er war nur indirekt von 2000 bis 2006 nur indirekt in der Regierung beteiligt über die FPÖ, später das BZÖ.
Alors, je voudrais préciser que le rôle de Jörg Haider, c'est pas vraiment Jörg Haider qui a fait la révolution, son rôle était plutôt indirect. Même dans les années où le FPÖ était au pouvoir, entre 2000 et 2006, lui-même n'était pas directement au pouvoir, mais son influence a quand même été énorme, il a exercé une très grande pression, et c'est grâce à lui qu'on doit le succès du FPÖ qui est passé d'un parti qui avait avait à peu près 4 à 5% des voix, un parti qui en a eu 27% en 2000. Aujourd'hui encore, c'est un parti qui a eu une grande influence. Le bipartisme existe toujours, mais il est beaucoup moins fort dans le domaine économique. Dans les domaines de la banque, par exemple, ce bipartisme est beaucoup moins présent qu'il ne l'était. Il l'est encore, par exemple, avec la Raiffeisen, une banque qui est très liée aux conservateurs de l'OFAOP. C'est le cas aussi de la compagnie d'assurance Unica, qui est liée également. Dans le domaine des assurances, là encore, il y a une certaine autonomisation à laquelle on a pu assister, sauf peut-être dans les assurances qui sont liées aux municipalités, par exemple la Wiener Städtische, donc l'assurance qui est la maison d'assurance qui est liée à la ville de Vienne, qui reste attachée à un parti politique. C'est le cas aussi de tout ce qui est radio-télévision d'État, mais sinon ce bipartisme est devenu moins important.
On était en Italie avec la Ligue du Nord, on était en Pologne, on était en Belgique avec le Vlaams Belang. Personne, tout le monde se défend d'être d'extrême droite, alors que la presse européenne qualifie tous ces partis d'extrême droite. Alors, si vous n'êtes pas d'extrême droite, vous êtes où dans l'échiquier politique ?
Ah, je pense que nous sommes à la...
Oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. En fait, tout le monde dit, on entend souvent extrême droite. Non, à droite, oui, peut-être, plutôt à droite, je dirais. Mais vous savez, cette question de l'extrémisme, tout dépend qui s'exprime. S'il s'agit de personnes qui pensent que l'immigration doit être entièrement libre, qu'on ne doit pas avoir de frontières, qu'on doit accepter autant de gens que les gens ont envie de venir, dans ce cas-là, nous qui disons qu'on doit plutôt trouver la solution au problème dans les pays d'origine, d'où viennent les migrants, peut-être que notre position, pour eux, paraît extrémiste, si ce sont des gens qui sont pour une immigration libre, complète et complètement incontrôlée, avec obligation pour les pays européens d'accueillir tous ces gens. Dans ce cas-là, oui, peut-être que dans ce cas-là, eux vont dire qu'on est extrémiste. Mais en fait, tout dépend de savoir qui met l'autocollant, si je peux dire, extrémisme.
Centralien, historien, écrivain, essayiste et marathonien, Jérôme Segal nous accompagne dans nos pérégrinations autrichiennes. Spécialiste de l'extrême droite, il décrypte ce qui, ici, se lit toujours entre les lignes.
En Autriche, l'extrême droite a déjà été au pouvoir à deux reprises depuis la Deuxième République. Donc la Seconde République, c'est 1955, la Nouvelle-Autriche. Sous Kreisky, le grand chancelier autrichien le plus charismatique, un juif qui était réfugié en Suède pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est retourné ensuite, même s'il n'était pas vraiment le bienvenu quand il est arrivé. En 70, il devient chancelier et il est chancelier toléré par l'extrême droite. Bon, il peut devenir chancelier grâce à l'extrême droite du FPE, mais à cette époque-là, le FPE n'est pas aussi radical qu'il l'est aujourd'hui, puisqu'il est d'orientation libérale, on pourrait dire. C'est le troisième parti issu de l'Union des indépendants, un parti donc, qui se veut ni social-démocrate ni chrétien-conservateur, mais quand même avec des éléments pan-germanistes, avec certaines caractéristiques qui deviendront après plus importantes et qui en feront vraiment un parti d'extrême droite comme il l'est aujourd'hui. Et donc de 70 à 83, le chancelier Kreisky a trois ministres du FPE, dont un notamment, Friedrich Peto, qui est un ancien officier nazi. Un autre moment important, c'est évidemment en 2000, et là, en France, on en a entendu parler, c'est lorsque le FPE mené par Jörg Haider arrive au pouvoir. Jörg Haider lui-même ne participe pas au gouvernement, mais à de nombreux ministres. Le vice-chancelier est du FPE. Et donc, de 2000 à 2006, l'extrême droite est aux commandes du pays avec, cette fois-ci, les chrétiens conservateurs.
Comment se fait-il que les spectres du passé ne fassent pas peur ici ?
Il faut savoir que les Alliés portent une certaine responsabilité avec la déclaration de Moscou en 1943, dans laquelle les Alliés affirment que l'Autriche est le pays, la première victime du nazisme, avec évidemment l'Anschluss en 1938. Donc cette façon de concevoir l'histoire, de voir l'Autriche uniquement comme victime et non comme bourreau, c'est quelque chose qui s'enracine dans la Seconde Guerre mondiale et qui évidemment perdure encore aujourd'hui. Mais l'affaire Waldheim a été le premier moment dans l'histoire de l'Autriche où cette thèse a été battue en brèche, où on s'est rendu compte, par exemple, de la surreprésentation des Autrichiens dans l'appareil nazi. Pour mémoire, il y a un historien qui s'appelle David Hart, un historien aux États-Unis, qui a rappelé que si les Autrichiens constituaient 7% de la population du Reich, ils étaient 13% dans la SS, ils étaient 40% dans les personnels des camps de concentration et ils formaient 70% de l'équipe qui a mis en place la solution finale avec Eichmann. Donc l'Autriche avait vraiment une propension à sombrer dans la violence, à adopter le nazisme.
Et quelque chose qui m'échappe, c'est est-ce que l'absence de dénazification dans le pays a laissé des traces et comment est-ce qu'on peut s'accommoder d'une classe politique héritière du parti nazi autrichien ?
La dénazification, qui effectivement en Autriche a été beaucoup moins importante qu'en Allemagne, c'est quelque chose dont on ne parle plus tellement. La plupart des Autrichiens tiennent le discours suivant, qui consiste à dire « il y en a marre, faut tirer un trait, Auschwitz, 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 il y en a marre ». Bon, en Autriche, c'est pas tant Auschwitz qui est le grand camp, c'est Mauthausen, dans la partie occidentale du pays. Il y a des incidents régulièrement, il y a des graffitis qui sont mis sur le mur, il y a des stèles qui sont profanées, mais ceux qui s'indignent sont pour les Autrichiens les bien-pensants, ceux qui toujours prônent la repentance perpétuelle. Et pour les Autrichiens, voilà, il faut arrêter avec ça, ça fait bientôt 80 ans. Pour les Autrichiens, c'est à l'époque c'était normal certains disent mais de toute façon on n'avait pas le choix, si on était dans la fonction publique on était obligé d'être membre du parti, si on voulait faire des études on était obligé d'être dans le parti, etc. Et pour eux, bon, ça concerne leur grand-père, leur arrière-grand-père, c'est quelque chose dont on ne parle plus aujourd'hui.
Parce qu'il y avait eu le fascisme, parce qu'il y avait eu le nazisme, parce qu'il y avait eu le génocide des Juifs, on avait en quelque sorte décrété que comme c'était le mal absolu, il fallait qu'il disparaisse.
Jean-Yves Camus.
C'était aussi simple que ça. Seulement ça, c'était un impératif moral, c'était une injonction. Est-ce que la réalité allait se plier à cette injonction-là ? Alors oui, pendant quelques décennies, effectivement, l'extrême droite, électoralement, est restée très faible. Et en termes de militance, elle n'allait pas très loin. Mais à un moment donné, l'histoire s'éloigne, les verrous sautent, la mémoire efface, non pas totalement, mais partiellement. Les jeunes générations oublient ce référentiel-là qui n'est pas le leur. Et c'est comme ça qu'on a vu, dans les années 80, le Front National émerger. Alors certains disaient du néant, c'est qu'ils avaient oublié l'ancienneté politique de Jean-Marie Le Pen et d'autres, mais aussi... Je me souviens que l'étonnement était particulièrement grand, parce qu'on était encore sur cette idée préconçue que, en 45, on avait vaincu l'extrême droite. Oui, mais on ne l'avait pas vaincu définitivement. Les filiations historiques, les filiations idéologiques, elles se font sur le temps très long. Moi, j'ai jamais cru, personnellement, à cette disparition définitive. Simplement, il fallait le temps qu'après un cycle descendant, on ait de nouveau une capacité des citoyens à se dire que ces partis étaient crédibles. Et finalement, il ne tenait pas tout entier dans ce qu'avait été l'expérience historique du fascisme et du nazisme.
Merci à Jean-Yves Camus, Gerolf Hanmans, Janusz Korwin-Mikke, Marek, Johannes Hübner, Eduardo Rissi, Jérôme Segal et Simon Clavière. Les figures providentielles des extrêmes droites européennes. Réalisation Doria Zénine, mixage Alain Joubert, attaché de production Marie-Yvonne Abolivier, coordination Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch et Doria Zénine pour la série documentaire.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous décider pour dimanche, bibliographie, lien, nous podcaster pour changer d'avis ou nous réécouter au bureau de vote, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, pour continuer à scruter les extrêmes, un lien vers Tenk, la formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines The Horse, un documentaire de Charles Burnett. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, 2e épisode de notre série, des militants galvanisés et décomplexés,